Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des maternelles, saison 2, épisode 3. C'est parti. Je suis Benjamin Muller, salut tout le monde, bonjour, bienvenue, ça me fait très plaisir de vous retrouver dans cet épisode du podcast des maternelles pour parler aujourd'hui d'un sujet qui est important, délicat et bizarrement, c'est un sujet dont on parle peu alors qu'on y pense tous et toutes beaucoup. On en parle peu avec ses amis, on en parle peu avec sa famille et même parfois avec sa sage-femme ou ses médecins. Ce sujet, devinez quoi ? C'est le sexe, oui, mais le sexe après l'accouchement. Allez, franchement, je vous explique. Il y a une dizaine de jours, quand j'ai eu l'idée de faire ce sujet, ce thème pour le podcast, je me suis dit que j'allais galérer pour recueillir des témoignages, que c'était trop intime pour que vous acceptiez de témoigner sur le sujet. Eh bien, devinez quoi, je me suis lourdement trompé. On le sent, ce sujet, vous êtes nombreux et nombreuses à souhaiter en parler et à souhaiter avoir des conseils. Donc, dans cet épisode, on va parler de la vie sexuelle 2.0, de la vie sexuelle d'après, celle d'après une naissance. D'ailleurs, même avant ça, on va parler de la vie sexuelle pendant la grossesse.
Donc déjà, avec mon conjoint, nous n'avions pas eu beaucoup de relations sexuelles pendant la grossesse. Lui, comme moi, on en a parlé, on n'était pas trop à l'aise à l'idée d'avoir un rapport avec le bébé. Plus le ventre qui se voyait, c'était pas... Voilà, on n'était pas à l'aise.
Tout comme après, le retour à la maison, la fatigue, le stress, le bébé, les kilos en trop, tout ça, bah c'est vrai que la sexualité n'est plus forcément la priorité. On n'a pas forcément la tête à ça, on n'a même pas forcément envie. Tout cela, évidemment, se comprend. Seul problème, et ça, vous me l'avez tous dit, on n'en parle pas assez avant. On ne nous prévient pas que ça va devenir le désert de Gobi, quoi.
Pour ça ou pour d'autres choses, on n'est pas préparé à l'après, on n'est pas préparé au baby blues, on n'est pas préparé à la sexualité après. On aborde la contraception, mais ça fait tout, hein.
Et puis bon, bien sûr, si vous connaissez un peu ce podcast, si vous l'écoutez régulièrement, vous savez que moi, je suis un éternel optimiste sur tous les sujets. Bon, certains disent que je suis naïf, moi, je préfère dire que je suis optimiste. Donc on entendra aussi des témoignages d'hommes et de femmes pour qui ça va. Ça s'est bien passé, le retour de la vie intime.
Ça nous a permis d'avoir un petit peu au retour de la maternité comme une première fois qui a été assez intense. Et depuis ce jour-là, on s'est accordé beaucoup plus de liberté dans notre sexualité avec des nouveautés, on ose beaucoup plus de choses et comme on dit, c'est le feu.
Voilà, sujet important, donc on va prendre le temps de bien en parler et d'écouter un maximum de témoignages. Le sexe après l'accouchement, c'est parti. Bonjour Sophie Cadalen.
Bonjour Benjamin.
Et merci beaucoup d'accepter de répondre à mes questions et d'aider énormément de gens qui, depuis que j'ai dit que j'allais parler de ce sujet, m'ont envoyé des questions, ont fait des commentaires sur ce sujet qui est très important et dont on parle étrangement si peu. Je rappelle que vous êtes psychanalyste, que vous êtes écrivaine. Je vais citer deux livres qui se rapprochent de notre sujet. Inventer son couple, sorti chez Erol, et Vivre ses désirs vite, chez Philippe Pré. C'est tabou ou pas, parler du sexe après l'accouchement ?
Quand on en parle, c'est toujours sur un mode extrêmement précautionneux, comme quelque chose qui va être compliqué, comme quelque chose qui risque d'être douloureux, comme quelque chose qui va lever des tas de résistance. Le sujet est réel, enfin, et puis il y a réellement des quelques soucis quelquefois, mais il est parlé sans être réellement exposé. On en fait quelque chose de très lourd sans réellement expliquer en quoi ce serait si lourd.
Ouais. Et on place les femmes un peu dans la position d'un petit oiseau trop fragile ?
Oui, ouais. Tout à fait, oui. Il y a ce côté autour de la sexualité des femmes en général, et notamment quand elles deviennent mères, là elles deviennent sacrées, vous dites petit oiseau fragile, mais c'est aussi voilà une espèce d'icône qu'il faut ménager. Et on l'aborde effectivement souvent sous l'angle de leurs difficultés, et rarement sous l'angle des difficultés des pères, parce qu'il y en a aussi. Mmh. C'est pas forcément si facile de faire l'amour à sa femme quand elle vient de nous donner un enfant.
À chaque fois sur les réseaux sociaux, je mets des appels à témoins et je vois en fait en fonction des réponses pour faire un thème sur le podcast. Et là, c'est un des records que j'ai reçu. Énormément de messages anonymes parce que ça reste très intime. Oui. Et beaucoup de demandes. J'ai l'impression que c'est quand même une vraie souffrance pour beaucoup de couples. Vous le constatez avec vos patients, les jeunes parents, c'est une vraie souffrance ou alors on s'y acclimate et on se dit bon, dans quelques mois, ça va passer, ça ira mieux demain, quoi.
Alors moi, j'ai pas les témoignages, je dirais, à chaud. Parce que quand on vient d'accoucher, en général, on met sa psychanalyse en suspens et on a beaucoup d'autres choses à faire qu'à aller voir son psy tous les semaines. Par contre, ça peut être l'occasion d'une psychanalyse où on se dit, voilà, j'ai accouché il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, il y a 3 ans, Et depuis, la vie sexuelle est compliquée et l'accouchement, en général, il y a un accouchement qui peut-être a été un peu traumatisant en passant, enfin, c'est pas du tout en passant, mais qui en tout cas
c'est
est à l'origine.
C'est souvent le point de départ de difficultés, voilà.
Voilà. Pas toujours, pas seulement, mais oui, c'est pas un sujet qu'on vient m'exposer pendant. C'est un sujet avec lequel on s'arrange en situation, souvent de manière très solitaire, de manière un peu honteuse aussi quelquefois. Et si ça ne s'est pas arrangé, effectivement, on vient l'amener ensuite chez un psy pour en parler.
Il y a une notion qui entre beaucoup en compte, c'est celle de la culpabilité.
Oui.
De toute façon, bon, les femmes, elles culpabilisent tout le temps, en devenant mère tout le temps, et avec la sexualité encore plus. On va écouter un premier témoignage qu'on va commenter, qui résume, je crois, beaucoup de témoignages que j'ai pu recevoir. Il est de Suzy, on l'écoute.
Bonjour, alors moi je m'appelle Suzy, j'ai 27 ans, je suis en couple depuis 8 ans. Avec mon mari, on a une petite fille qui a 18 mois. Avant qu'on soit parents, on avait une sexualité tout à fait normale. Enfin, si ça veut dire quelque chose de normal, en tout cas qui nous convenait à nous. Ça n'a jamais été un sujet vraiment dans notre couple. Ensuite, il y a eu la grossesse, donc ça a quand même pas mal calmé le jeu, mais ça nous inquiétait pas particulièrement. On se disait que c'était normal. Enfin, moi, je me disais que c'était normal, que j'étais enceinte, enfin voilà. Ensuite, il y a eu l'accouchement. Donc moi, j'ai eu un accouchement super facile et rapide, donc j'ai de la chance. J'ai eu que quelques micro-éraillures, j'ai eu 3 petits points qui étaient vraiment pas douloureux. Donc voilà, j'ai pas eu particulièrement de séquelles physiques, donc de ce côté-là, tout allait bien. On a fait du cododo en rentrant de la maternité, donc ce qui, je pense, favorise pas forcément dans notre cas, en tout cas, la... le retour rapide d'une sexualité, enfin, ou d'une intimité, du moins. Ensuite, j'ai allaité. Donc, moi, j'étais complètement pleine d'ocytocine. J'étais comblée. Je me sentais absolument pas concernée par le sujet à ce moment-là. Donc, voilà. Et je me suis rendu compte, en fait, que petit à petit, plus ça allait, plus j'ai repoussé l'échéance. Je pense que j'avais de moins en moins envie. Je me disais, bon, j'attends la rééducation du périnée. Après, je me suis dit, bon... Enfin, au début, je me suis dit, j'attends les 1 mois. Après, je me suis dit, j'attends la rééduc. Après, voilà, petit à petit, je cherchais un peu des excuses, on va dire, enfin, à moi-même. Puis à force, c'est devenu un peu la zone inconnue à ne pas franchir. J'avais juste envie qu'on la laisse tranquille. C'était un peu comme Gandalf avec son bâton qui dit « Vous ne passerez pas ». C'était un peu ça que je ressentais à ce moment-là. J'en ai pas du tout parlé jusqu'aux 3 mois de ma fille. Je me souviens que ma sage-femme me disait « Attention, vous prenez pas de contraceptif et tout ça ». Je lui disais « Non, mais là, il y a zéro risque. C'est néant, donc il y a pas de risque du tout ». Et puis la conversation s'était arrêtée là. On n'a jamais vraiment creusé le sujet. Je me souviens quand même avoir envoyé un message à une copine qui a accouché en même temps que moi. Et je lui ai demandé, alors, est-ce que vous avez repris de votre côté, voilà. Et pour savoir si c'était normal ou pas. Et bon, j'ai quand même été rassurée de voir que c'était pas non plus le feu d'artifice de son côté. Mais c'était quand même vachement moins pire que moi. Donc voilà, mon mari, lui, de son côté, était très patient. Il m'a jamais mis la pression. Il m'en a jamais parlé, enfin voilà, c'était vraiment pas un problème de ce côté-là. Mais moi, je commençais vraiment à culpabiliser. Je me disais, le pauvre, c'est vraiment pas sympa comme période. Donc, je me suis dit, allez, essaye de te forcer un peu, sinon ça va jamais revenir, quoi, ça se trouve. Comme si, quand j'avais passé la deadline des 3 mois, j'allais plus jamais refaire l'amour de ma vie, quoi. Donc, on a fait un essai qui s'est avéré non fructueux, hein. Moi, j'étais pas du tout dans de bonnes conditions. J'avais hyper peur d'avoir mal. Je me mettais une pression de dingue. Je pense beaucoup plus que la première fois quand j'étais ado. Et puis, je pense que plus on attend, plus ça devient un sujet. Donc là, c'était clairement devenu un sujet pour moi. Et alors, autant sur le postpartum, j'avais vraiment tout anticipé, j'étais super briefée, j'avais vraiment tout, j'étais bien organisée. Mais alors, j'aurais jamais pensé remettre autant de temps avant de retrouver une sexualité comme avant, quoi, entre guillemets. Et je me demande d'ailleurs toujours pourquoi personne ne nous le dit. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez tabou, enfin personne n'en parle quoi. Et puis ensuite, donc petit à petit, on est arrivé aux 6 mois de ma fille. J'ai commencé à lui donner des biberons le soir et à faire un allaitement mixte. Non pas que l'allaitement soit un problème pour avoir une sexualité épanouie, hein. Je pense qu'il y a plein de mamans pour qui c'est pas le cas, et tant mieux, heureusement. Mais en tout cas, moi, ça m'a un peu permis de me reconnecter avec mon corps et de retrouver ce nouveau corps. Et puis, mon bébé a fait ses nuits, ce qui change quand même pas mal la donne. Et puis là, il y a eu donc le confinement. Donc, on était complètement dans notre bulle tous les trois et c'était super. Donc, petit à petit, c'est vrai qu'on c'était plutôt favorable. Donc, en fait, on a refait un deuxième essai. Moi, j'ai vraiment attendu d'avoir envie. Je voulais pas me créer de mauvais souvenirs. Donc, j'ai vraiment attendu. Et en fait, c'était super et c'est directement reparti comme en 40. Donc, pour le plus grand bonheur de mon mari qui, lui, ne disait rien de son côté, mais qui, je pense, se disait ça craint du boudin. Et je me dis aussi qu'on devrait quand même le dire. Pourquoi on le dit pas aux hommes, quoi, les prévenir. Et puis finalement, c'est vraiment devenu une autre sexualité. C'était hyper différent. Ça a vraiment donné un nouveau souffle à notre couple. Donc c'était super. C'était tellement cool qu'on a refait un deuxième bébé. Donc on était contents. Et rétrospectivement, je suis très contente d'avoir attendu d'être prête, de pas m'être créé de mauvais souvenirs, d'avoir attendu que ce soit vraiment le bon moment. Parce que du coup, après, c'était encore mieux qu'avant. Et je pense que j'avais vraiment besoin de me connaître en tant que mère, de me rencontrer, de qu'on soit bien ancré dans notre équilibre à tous les trois et qu'on soit bien épanouis pour avoir une sexualité normale, quoi, reprendre une sexualité épanouie. Et maintenant, je le martèle à mes copines qui accouchent pour passer le message. Parce que je pense que quand on sait que c'est normal et qu'on n'est pas seul, et ben, c'est comme tout et ça devient un sujet beaucoup moins important. On sait que c'est OK et tout revient naturellement un jour.
Alors voilà, Sophie Cadalen, beaucoup de choses dans le témoignage de Suzy. Déjà, on va peut-être commencer par ça. Pendant la grossesse, elle dit bon, on a arrêté, etc. On culpabilisait pas trop, on se disait que c'est normal. En revanche, après l'accouchement, là, elle culpabilisait plus. C'est marrant de se dire, bah, pendant la grossesse, c'est normal, mais après, alors que la femme vient de subir quand même un traumatisme, c'est quand même un traumatisme, l'accouchement, là, elle culpabilise. Comment vous l'interprétez, vous, ça ?
Alors ça fait partie à leurs propres femmes, mais aux hommes aussi, mais sur d'autres chapitres peut-être, de tout ce qu'on imagine, de ce que l'autre doit penser, doit attendre, doit vouloir. Mais ce qui est remarquable dans ce témoignage, c'est qu'elle dit bien que ça n'avait pas l'air non plus d'être un sujet pour son compagnon.
En tout cas, ils n'en parlaient pas.
Ils n'en parlaient pas, voilà. Et la sexualité, c'est vraiment une affaire à deux. Et plus on s'impose, voilà, plus on se prend en charge... la responsabilité du bon épanouissement ou de la résistance, du blocage, plus finalement le rapport à l'autre va être compliqué. C'est quelque chose qu'on a fait avec l'autre, des peurs qu'on a franchies avec l'autre et des peurs qui vont revenir parce que la sexualité, je ne crois pas que ce ne soit jamais acquis au sens ça y est, on est bien dans sa sexualité, on l'est bien par moments, on l'est moins bien à d'autres et on y est de nouveau bien par d'autres moments. Mais qu'est-ce qui se passe chez l'autre ? Et Suzy le raconte bien, c'est devenu une histoire d'elle à elle-même. Une histoire, finalement, qui n'incluait pas l'autre, mais sans même le mettre dehors. C'est que lui-même n'en parlait pas et qu'elle a pensé pour lui. Et là, ça fait une charge énorme. Ça fait quelque chose qui rend, effectivement, le passage du cap absolument gigantissime. Enfin, c'est très angoissant, très mais grosse pression.
Elle parle d'échéance, elle repoussait oui. L'échéance. Les oui. Échéances, normalement, c'est pas ça. Donc, c'est... Alors, elle dit quelque chose d'intéressant, elle dit... Force-toi. Elle se disait force-toi. J'ai reçu d'autres messages de gens qui me disaient que des sages-femmes ou des médecins ont pu à des moments leur dire pour relancer la machine, il faut un peu se forcer.
Oui.
Il faut se forcer, vous diriez-vous ?
Alors peut-être que le terme n'est pas tout à fait juste. En tout cas, il faut, oui, s'il y a quelque chose dont on doit quelquefois se forcer, et peut-être dans la sexualité particulièrement, c'est de sortir de nos zones de confort. La sexualité, qu'on croit effectivement quelque chose de simple, de naturel, de léger, ben non, c'est pas si léger que ça. Et ça vient toujours buter contre des résistances. Et plus on se connaît, plus on est dans une intimité avec l'autre, plus bizarrement, la sexualité va réclamer de nous déranger, de bouger quelques images, quelques habitudes, quelques ça va de soi. notamment quand on est accouché entre-temps, on est devenu un peu autre quand même, notre sexualité va s'en trouver peut-être modifiée, autant de choses qui sont là, latentes, et qu'on a peut-être un peu peur d'aller vérifier, d'aller voir, d'aller rencontrer. Donc, se forcer, en tout cas, c'est pas dans le sens de « allez, je respire un grand coup et oui, je m'allonge ».
Il ne s'agit pas d'y aller si ça la dégoûte. Et qu'elle,
ah, pas du tout, c'est pas du tout.
Mais, c'est se forcer, comment on pourrait le dire.
En tout cas, c'est bien réalisé comme c'est pratique de ne pas y aller. D'ailleurs, ce témoignage le raconte bien, il y a vraiment quelque chose de presque absolu qui s'est joué autour de l'enfant, de l'allaitement, qui va aussi effectivement encourager ce lien à l'enfant très fort, qui fait que ça peut être en autonomie totale, les autres peuvent sortir du paysage, je suis avec mon enfant, c'est merveilleux, dans une espèce de fusion comme ça, très rare et qui ne va pas durer longtemps, de laquelle le père peut être tout à fait exclu, pourquoi pas la vivre ? Mais effectivement, en ayant conscience qu'il y a quand même quelqu'un peut-être qui est au bord, qui peut-être s'en plaint pas, à qui peut-être ça convient aussi. Mais se forcer, c'est pas se forcer à faire un acte qui, comme vous dites, peut me répugner à ce moment-là, ou me faire très peur, très mal. C'est, en tout cas, questionner, voilà, de quoi j'ai peur, en quoi ça m'arrange, en quoi, finalement, c'est pratique de mettre ça un peu à distance aujourd'hui.
Ouais. Essayer de relancer la machine, en fait.
C'est oui, réinterroger son désir, de se poser peut-être la question aussi de est-ce que j'ai envie de d'évincer la sexualité de ma vie ? Parce qu'on est souvent dans le questionnement de « oui, mais l'autre, il va être frustré, oui, mais l'autre, ça va lui manquer. » L'autre va aller voir ailleurs, c'est aussi la question qui va nous peser, même si on n'ose pas l'énoncer clairement. Et c'est de ça dont on doit se dégager. C'est pas pour l'autre, c'est pour soi. Est-ce que vraiment, on a envie de continuer dans cette espèce
de... Est-ce que vous
de...
avez envie de devenir une de ces femmes qui n'a plus de relations sexuelles du tout, ou un de ces hommes ?
C'est, exactement. C'est ça la question à se poser. Est-ce qu'on a envie aussi de se priver de ce lien-là qui est quand même particulier avec l'autre, et qui nous sort de notre rôle de parent. Or, quand on est devenu parent, ben c'est très pratique d'être tout entier investi dans ce rôle-là. Et la sexualité nous oblige à être ailleurs, à être autre aussi. Et c'est quand même mieux d'être aussi autre que uniquement parent.
C'est incroyable quand Suzy dit qu'elle avait encore plus la pression pour la première fois après l'accouchement que la première fois tout court quand on est adolescente. Ça vous surprend, ça, ou pas forcément ?
Pas forcément, non. Il y a, d'abord, jeunes gens, il y a une espèce d'inconscience. Il y a un cap à passer, on est une grande personne, on a l'impression que... Bon, on s'aperçoit que tout n'en est pas forcément transformé ni révolutionné. Tout est un petit peu décevant, souvent.
Bah, surtout la première fois.
Il y a un mythe de la première fois. Ah oui, pas forcément être accroché au rideau, mais...
On a crash, quand même.
Voilà, on s'aperçoit que tout commence, mais tout est à faire encore. Et tant mieux, c'est une nouvelle aventure qui commence. Mais oui, l'enfant... Et puis tout bêtement, c'est pas bête du tout, mais l'enfant, il est passé par nos parties génitales aussi. C'est un endroit de nous qui a été bien secoué, bien bouleversé, quelquefois abîmé aussi, ne le nions pas, quelquefois traumatisé. Enfin, c'est tout d'un coup, il y a une espèce de confusion. C'est l'endroit de moi femme, c'est l'endroit de moi mère, c'est la pureté, c'est la mère et la putain. Enfin, on retrouve toujours cette espèce de dichotomie qui menace les femmes. Donc, ça va être très compliqué de se réapproprier ce lieu-là. Enfin, ça peut l'être. Comme un lieu de plaisir, un lieu de jouissance, et pas un lieu de devoir.
Et ça prend un peu de temps, et Suzy a raison quand elle dit « j'étais très contente d'avoir pris du temps pour moi ». Là, je pense que ça va aider aussi du monde. Il faut accepter que ça ne revient pas tout de suite en 15 jours. C'est bien de le rappeler. Deuxième témoignage, je vais vous faire écouter, celui de Chloé. Chloé, elle est maman de 3 enfants, 3 grossesses, 3 reprises de la sexualité différentes, vous allez voir.
On est beaucoup préparé sur la préparation à l'accouchement. Mais finalement, très peu, voire voilà, trop peu. Mon lapsus était le bon, c'est sur l'après et puis sur l'intimité après l'accouchement. Le corps change, notre esprit change, notre couple change. Quand on a un premier enfant, on passe de jeune couple à parent. Ça a aussi des conséquences. Pris dans le quotidien, baby blues ou pas, en fonction... du retour de couche, à chaque fois ça a été différent, à chaque fois il y a eu du stress, des craintes, de douleurs, de problématiques, de je sais pas si je suis désirable, de est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais avoir du plaisir, est-ce qu'il va en avoir, voilà, il y a eu plein de choses. Donc à l'issue de mon premier accouchement, ça a été compliqué, il y a eu des instruments, il y a eu beaucoup de sang et mon mari a été un petit peu
traumatisé. Hein. Il s'est un peu senti dans le laboratoire, dans l'abattoir. Donc, bah, c'est pareil, ça a eu une incidence sur la vie sexuelle après, dans le sens où, bah, moi, j'avais des cicatrices qui étaient un petit peu douloureuses quand même pendant longtemps. Lui, il avait l'appréhension de me faire mal. Et puis on n'était pas préparé, on savait pas ce qu'on pouvait faire pour aider. Est-ce qu'il fallait que je fasse quelques massages pour avoir moins mal? Est-ce qu'il fallait qu'on utilise du lubrifiant pour avoir moins mal? Voilà, il y avait des choses. Et puis, bah, quand on a mal, et ben, c'est pas agréable. Et donc, on espace les rapports. Et du coup, il y a moins de rapports. Et ils arrivent tard aussi parce que, l'allaitement, les nuits, etc. On a du mal à prendre le temps, de se poser et de respirer un bon coup, d'en avoir envie. Voilà, on a aussi pas toujours le temps de le faire au moment où on en a envie. Donc, c'est un peu compliqué, de se retrouver dans l'intimité en prenant des rendez-vous. Ça peut avoir un côté très sympathique, mais dans le quotidien, avec un bébé qui a son rythme à lui, c'est pas toujours évident non plus. Et puis, donc, il y a eu le retour de cette première grossesse. La deuxième grossesse, ça a été beaucoup plus simple parce que l'accouchement s'est beaucoup mieux passé, parce que le retour à la maison a été rapide, parce que j'avais peu de douleurs, parce qu'on avait déjà essuyé les pots glacés la première fois, qu'on savait un petit peu mieux, qu'on se connaissait mieux aussi, parce que mine de rien, en 2 années de vie de couple, dont une naissance, on apprend beaucoup l'un de l'autre. Et puis maintenant, on est sur l'après-Auguste. Donc Auguste est né fin janvier, et donc il a 1 mois et demi. Il se réveille 3 fois par nuit, le rythme est intense. On n'a plus le même âge non plus, on accuse un peu le coup quand même, hein, de la trentaine bien tassée. Et puis ma foi, c'est pareil, il faut se poser, il faut prendre le temps. Et pour le retour de cette grossesse-là, c'est compliqué en termes de libido, surtout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de problématique. Mais voilà, l'allaitement, l'âge, la fatigue, je ne sais pas trop. Même moi-même seule, c'est difficile de se retrouver. Et donc, ce n'est pas simple de se retrouver à deux non plus. Voilà, ça interroge et encore une fois, il n'y a pas trop d'explications, mais ça joue aussi sur le moral. Donc, je pense qu'il faudrait que ça fasse partie quand même intégrante de la préparation à l'accouchement. Alors, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Moi, je n'ai pas fait de préparation classique, j'ai fait de l'absonomie, mais voilà, à l'époque, en tous les cas, pour ma fille, ça n'avait pas place dans la préparation à l'accouchement. Pour ça ou pour d'autres choses, on n'est pas préparé à l'après, on n'est pas préparé au baby blues, on n'est pas préparé à la sexualité après. On aborde la contraception, mais ça ne fait pas tout. Hein. Loin de là, le retour de couche, la contraception, attention, si vous ne voulez pas d'enfant, il faut faire quelque chose. Mais sans ça, on ne court pas toujours chez son gynécologue ou sa sage-femme le premier mois ou dans le deuxième mois. On fait les choses un peu comme on les ressent et pour le coup, on aurait besoin parfois... d'avoir eu quelques conseils qui pourraient faciliter la vie des couples dans ces moments-là.
Alors, Sophie Cadalen, merci beaucoup à Chloé pour la franchise de son témoignage et des bisous au petit Auguste qui voulait témoigner aussi visiblement avec nous. Je ne sais pas par quoi commencer, peut-être commencer par la fin, c'est-à-dire là où on est aujourd'hui, Chloé. Elle insiste, elle aussi, pour dire qu'on n'était pas préparé. On n'était pas préparé à vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Et surtout, elle dit, j'ai du mal à me retrouver moi-même. Alors de là, imaginez me retrouver en tant que couple, qui plus est au lit, c'est compliqué. On peut le comprendre, ça.
Oui, mais Chloé raconte peut-être l'impossible à comprendre avant de le vivre. Je ne sais pas si on peut être si préparé au fait que tout ce que l'on vit va impacter sur notre sexualité. C'est pour ça que Freud disait que c'était que là un inconscient se révélait, que ça peut pas être quelque chose d'uniquement mécanique, d'uniquement volontaire. La sexualité, elle vient tout convoquer en nous. Et Suzy, elle raconte 3 moments de vie extrêmement différents. On comprend que la première fois, ce sont des jeunes parents, accouchement peut-être un peu compliqué, traumatisme de l'événement, du stress, on entend beaucoup de stress dans ces périodes-là. Sexualité compliquée. Deuxième, c'est beaucoup plus décontracté. Ils savent un peu, ils s'en sont remis. Ils avaient repris une sexualité, j'imagine.
Peut-être qu'ils se mettaient moins de pression aussi.
Ils se devaient se mettre moins de pression. Là, pour le coup, être averti de ce qui avait été vécu permettait d'y aller peut-être plus tranquillement. Et il semblerait que ça s'est passé aussi beaucoup plus facilement. Donc, pas d'impact sur la sexualité. Ou en tout cas, une sexualité qui continue, qui est plutôt, plutôt agréable. Et le troisième, c'est le burn-out. Hein, voilà, on va utiliser ce terme-là, de l'accouchement. Trois enfants, fatigués, l'âge.
Ça ressemble à ça, là, le témoignage de Chloé, non ?
Mais oui, complètement. Et là, ce qui est bien à entendre, c'est que ce n'est pas l'accouchement qui va faire une dysfonction, enfin, créer une dysfonction sexuelle. C'est que c'est elle qui ne va pas bien. C'est elle qui est à bout là, qui se pose des questions, qui a du mal à se retrouver, qui est surchargée de tâches, de fatigue, de manque de temps pour elle, pour se questionner, pour s'apaiser. Et c'est ça aussi que vient nous dire la sexualité. Est-ce que je vais bien, moi ?
Et la sexualité, la reprise de la sexualité, ira bien quand elle-même ira mieux. Donc,
oui.
quel conseil, je sais que là, c'est très compliqué, puis sans l'avoir, mais quel conseil on peut lui donner là, pour alléger un petit peu ce burn-out qu'elle vit en ce moment ?
Là, je crois que Chloé, la question de la sexualité, elle est à mettre de côté.
Ouais.
C'est pas ça l'intérêt. Pas ça l'important d'ailleurs.
C'est pas le sujet du moment là.
Non, il a l'air aussi fatigué qu'elle. Et autorisons-nous dans notre vie de couple. Alors, on nous dit dans les moyennes, on fait l'amour, si tout va bien, 2-3 fois par semaine. Si tout va bien, et c'est une moyenne, oui, mais dans les 2-3 fois par semaine, il peut y avoir une semaine, on va le faire 4 fois dans la semaine, et 3 semaines, on va pas le faire du tout.
Ah, puis dans les moyennes, il y a les jeunes couples de 23 ans.
Et il y a les jeunes couples de 23 ans. Oui, ceci dit, Benjamin, il y a justement des couples de 50 ans, les enfants sont grands, ils sont partis, et ça y est, ça repart aussi.
Ah, ça repart vers 50 ans, c'est ça ?
Ça peut repartir aussi. Tout est permis.
Non, mais je veux dire, les moyennes, c'est chiant, parce qu'en fait, tout le monde se compare, et ça met une pression à tout le monde.
Non, là, ce que dit Chloé, c'est qu'elle est très fatiguée, c'est qu'elle a besoin peut-être d'être aidée, ce qui est sans doute très compliqué en ce moment, pour ça aussi. Besoin d'être un peu soulagée, d'être rassurée, de se retrouver elle, avant qu'effectivement, si on ne se désire pas un peu soi-même, on ne va pas être dans le désir de l'autre.
Bon Chloé, on vous souhaite beaucoup de courage, et puis ça va aller mieux dans pas longtemps.
Oui, ça va aller mieux.
On en est sûr. Sophie Gadalen, on fait une petite pause tous les deux. On va écouter, j'ai quelques questions plus physiques presque à poser à Anna Roy, notamment sur les questions de douleur, et puis on revient ensemble juste après. Salut Anna, bonjour Anna Roy.
Bonjour Benjamin Muller.
Bon, ai-je besoin de le rappeler ? Tu es la sage-femme de l'émission de la Maison des Maternelles, mais non, j'ai pas besoin de le rappeler, j'ai pas besoin de refaire ton CV. On l'évoque depuis tout à l'heure, sujet tabou, tous les témoignages qu'on a entendus, et moi quasiment 100% de ceux que j'ai reçus de femmes qui ont vécu des difficultés à reprendre une sexualité après l'accouchement, me disent toutes pourquoi on ne nous a pas préparé à ces difficultés. Du coup, moi je me demande déjà toi, est-ce que toi, quand tu vois des femmes qui vont accoucher, qui sont enceintes, tu leur parles de la sexualité d'après, en leur disant ça va être autre chose ?
Ah oui, moi je leur parle de ça, parce que les gens me connaissent, hein, je suis assez cash, donc oui, je parle de tous les sujets, il n'y a aucun tabou pour moi, et surtout pas celui-là, parce qu'en fait, il y a quand même des questions à se poser dans la sexualité de l'après-accouchement, et donc oui, bien sûr, je leur en parle.
Dans ta formation de sage-femme, toi, on te disait que c'était important, ou c'est plus ton ressenti qui t'a fait
Ah non,
te
non,
dire,
non, non, ouais. On a eu une formation en sexologie, et j'ai été formée à ça, bien sûr.
Mais alors pourquoi toutes disent on m'a pas préparé quel
Eh bien, parce qu'en fait, il faut bien s'en compte, les gens ont une gêne à parler de sexualité, et bien il faut s'imaginer que les professionnels de santé sont comme les gens normaux, et donc ils ont une gêne à parler de la sexualité, ils ont peur de gêner leurs patients ou enfin voilà, ils sont gênés. Moi, pas du tout, mais on a le droit de l'être aussi. Hein. Mm-hmm.
Donc t'as des consoeurs, de sages-femmes qui sont gênés, qui osent pas aborder ce sujet. Toi, quand tu commences à parler avec une femme qui a une sexualité plutôt normale, épanouie, qui est plutôt heureuse avec le sujet, qu'est-ce que tu lui dis sur l'après ? C'est quoi les 2-3 messages à faire passer ?
Que ça redevient comme avant.
Okay.
Que en fait, il faut pas prendre pour argent comptant que tout dans le postpartum est transitoire, y compris la sexualité. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui disent ah bah là c'est foutu, moi j'ai mal, c'est terminé, ma vie sexuelle est terminée. Pas du tout. Il y a des solutions et on retrouve une sexualité normale. Ça, je crois qu'il faut le redire. C'est vrai. Et même des fois, et même une sexualité qui est 10 fois mieux. Parce qu'il y a des femmes qui disent mais avec les histoires de périnée, etc.
Ah.
Mais même j'ai commencé à. Il y a des femmes qui jouissent pour la première fois après un accouchement. Je vous assure, c'est véridique.
Eh bien, non seulement je te crois, mais en plus je vais te faire écouter. C'est magnifique, ce témoignage d'Élise. On est exactement là-dedans. On écoute Élise et je pense qu'il va parler à pas mal de femmes. En tout cas, j'espère.
Bonjour, je suis Élise, la maman d'un petit garçon de 11 mois qui est né pendant le confinement, le premier confinement, au mois d'avril de l'année dernière. L'accouchement, c'est globalement bien passé puisque j'ai réussi à accoucher sans péridurale malgré un accouchement qui a été long et un gros bébé qui a provoqué sur son passage de belles déchirures au niveau du vagin et un petit peu au niveau du périnée. Les points de suture qui ont résulté de ça ont mis du temps à tomber, ils ont mis un mois à commencer à tomber. Donc la situation cocasse, c'est que au bout d'un mois, je me suis retrouvée avec des fils qui pendouillaient. Donc j'ai demandé à mon conjoint de les couper, enfin en tout cas d'enlever les points de suture. Donc il s'est retrouvé avec sa frontale entre mes jambes sur le canapé un soir. C'était assez rigolo. Et puis ça a permis de mettre un peu le sujet sexualité sur le tapis. Donc quelques jours après, on a réussi à faire l'amour avec pénétration, parce qu'avant c'est vrai qu'on se contentait de petites caresses. Sympathique, mais on était quand même curieux de voir ce que ça pouvait donner de reprendre une sexualité, j'ai envie de dire, plus classique. On était assez excités parce que finalement c'était un peu une deuxième, enfin une redécouverte de nos corps, et on a eu l'impression de vivre un deuxième dépucelage, sachant que la particularité de notre couple c'est qu'on est sortis ensemble 14 ans auparavant, on avait 14-15 ans. Et du coup, on a déjà vécu cette première découverte de la sexualité à deux. Donc voilà, on s'est retrouvés 14 ans après à faire la même chose un mois après la naissance de notre petit garçon. Alors, psychologiquement, du coup, c'était très sympathique. Mais par contre, physiquement, c'était quand même pas chouette parce qu'au début, j'avais carrément mal. Et puis après, c'était quand même franchement désagréable, même à force de patience et de douceur. On a réessayé après plusieurs fois d'avoir des rapports. C'était au pire douloureux, au mieux pas franchement agréable. J'ai quand même fait ma rééducation du périnée quelques mois après. Et alors j'ai parlé un peu de ces douleurs, mais c'était encore assez frais, donc j'étais pas très inquiète. La sage-femme m'a fait un petit massage, voilà, rien de fantastique, mais j'ai eu peu de séances de rééducation, donc en fait on n'a pas mis beaucoup ça sur le sujet, quoi. Enfin, on n'a pas beaucoup parlé de ce sujet-là. Par contre, la rééducation du périnée, ça a apporté quand même un gros plus à ma vie sexuelle personnelle, puisque je maîtrisais pas du tout mon périnée de cette façon-là avant. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant, si jamais il y en a qui nous écoutent et qui ne sont pas enceintes, qui n'ont pas accouché, faites une éducation du périnée. Franchement, c'est génial. Homme ou femme, hein, d'ailleurs. Donc voilà, ça, c'était le gros plus de la reprise de la sexualité, c'est que le plaisir est plus intense. J'avais quand même quelques douleurs qui persistaient, donc on se contentait de certaines positions assez basiques, hein. C'était pas la folie des jambes en l'air, voilà. Les douleurs, elles ont quand même mis 9 mois à disparaître, donc si c'était à refaire quand même, je reconsulterais quand même avant. Mais l'un dans l'autre, la reprise du travail, la vie quotidienne, les autres rendez-vous médicaux divers et variés font que... Je m'étais pas trop inquiétée de ce sujet-là, surtout que ma libido n'était pas au top, donc en fait ça me manquait pas trop. On faisait pas souvent l'amour et ça me manquait pas. Mon conjoint, lui, ça lui manquait quand même un peu plus, donc on en discutait un peu, mais j'étais encore pas super prête à... Il me reprochait de pas être très entreprenante en tout cas. Ce que je conçois, mais c'était vraiment pas mon truc à ce moment-là. 9 mois après, les douleurs ont disparu et, coïncidence ou pas, la libido est remontée. Donc autant avant on faisait l'amour un peu discretos parce qu'on est encore en cododo, j'allaite encore. Donc les premiers mois, c'est vrai qu'on a fait l'amour discrètement pendant que notre fils dormait dans son lit de cododo. Et bon, tant qu'il ne montrait pas de signe de conscience, finalement ça ne nous a pas plus dérangé que quand on a notre chat qui est sur le lit, quand on fait l'amour. Donc ça peut peut-être choquer certains, mais je pense qu'on est pas mal à faire ce genre de choses. Par contre, c'est vrai que passé les 5-6 mois, quand le bébé il commence à avoir des grosses interactions, qu'on voit qu'il dort jamais à point fermé, là ça devenait quand même gênant. Donc il a fallu qu'on trouve d'autres astuces, donc... changer de chambre pendant qu'il faisait la sieste, par exemple, voilà, on pouvait en profiter. Mais c'est vrai que jusqu'à 9 mois, ça me manquait pas trop. À partir de 9 mois, ça a commencé à vraiment revenir, même si on fait pas l'amour très souvent vis-à-vis de... Enfin, voilà, mon conjoint travaille de nuit, moi de journée. On a un bébé, ça prend du temps quand même. Ça prend un peu de charge mentale chacun de notre côté. Donc c'est vrai que faire l'amour, c'est pas la grande préoccupation principale du couple quand on est, même encore maintenant, mais c'est vrai qu'on est quand même content de se retrouver et on prend pas mal de plaisir maintenant. Donc même plus, je dirais, qu'avant d'avoir un bébé. Donc voilà, rien n'est perdu, hein. Les deux points positifs de la sexualité après bébé, c'est la découverte du périnée, du contrôle du périnée qui était intéressante. Et puis on savoure vraiment ces petits moments à deux parce que finalement ils sont précieux. Autant avant on peut faire l'amour un peu quand on veut, n'importe quand, à toute heure du jour ou de la nuit, n'importe où dans la maison. Autant là, ben, il faut profiter de chaque petit moment où on est tranquille tous les deux. Ça rend ces moments précieux et agréables finalement.
Voilà pour ce témoignage d'Élise qui, moi j'aime bien, hein, parce que ça illustre, je pense, que beaucoup de femmes vivent, c'est-à-dire on passe par des difficultés et finalement c'est mieux après. Donc toi tu disais que des femmes qui vont faire leur rééducation du périnée, du coup après, vont avoir plus de plaisir. C'est pas
oui.
un mythe ça.
Non mais c'est vraiment pas un mythe, non, je vous assure que c'est vrai, ouais. c'est un truc de dingue. En fait, la plupart des femmes françaises, on va dire, ne connaissent pas du tout leur périnée et cette région-là. Hein, donc tout d'un coup, elles découvrent une partie de leur corps et donc comme elles la découvrent, elles la connaissent mieux, comme elles la connaissent mieux, elles jouissent mieux.
Ça t'inspire,
c'est QFD.
Ça t'inspire quoi, le papa qui met la frontale et qui va couper les fils
Alors ça, bon, je trouve ça un peu pathétique. C'est-à-dire, c'est drôle, mais en même temps, on se dit, bah merde, c'était quand même vraiment la place d'une sage-femme. Elle aurait peut-être pu résoudre les problèmes avec plus de facilité. En tout cas, aussi, ça me donne envie de rebondir sur un truc, c'est que quand on a mal, il faut consulter.
Alors voilà, c'est ça. 9 mois de douleur, c'est pas normal. Ça.
Ah non, c'est pas possible ça. Ça me rend malade d'entendre des trucs pareils.
Qu'est-ce qui est normal en termes de douleur quand on...
Ah bah au bout de 6 à 8 semaines, il faut que ce soit passé. Parce qu'on a des solutions pour prendre en charge ces douleurs. Si jamais vous tombez sur un praticien, sage-femme ou médecin qui vous dit « Madame, c'est dans la tête, vous êtes devenue maman », ok, très bien, vous dites oui, et vous changez de braquet, vous allez voir quelqu'un d'autre, ça c'est très important. Pour dire que c'est dans la tête, il faut avoir fait tous les examens, parce que des fois, il y a des mycoses du postpartum qui donnent des douleurs, il y a des problèmes de cicatrices, il y a tout un tas de choses qu'il faut éliminer d'abord.
Alors, j'ai reçu plein de questions de personnes qui ne voulaient pas nécessairement témoigner pour pas que leur voix, ce qu'on peut comprendre, hein. Il n'y a aucun problème. J'en ai des très concrètes. Tiens, il y en a une sur le lubrifiant. Tu conseilles ou pas?
Oui, il ne faut pas hésiter. En tout cas, il ne faut pas avoir ce tabou-là, se dire « Ah, j'ai plus de désir ». Non, non. L'allaitement, par exemple, ça baisse la lubrification. Donc, pas hésiter à utiliser un lubrifiant que vous achetez en pharmacie, le plus naturel possible. Il y a des très bons lubrifiants maintenant dans le marché.
J'avais des questions sur les positions. Est-ce que toi, si une patiente te demande, est-ce qu'il y a des positions à privilégier au début pour la reprise, etc. ou pas forcément, chacun fait un peu comme
non, pas du tout. Moi, j'apprends pas aux gens à descendre les escaliers. Il faut tenter les positions et voir ce qui fait mal et ce qui fait pas mal. Mais il n'y a pas de Kama Sutra du post-grossesse, pas plus qu'il y a de Kama Sutra de la grossesse. C'est des conneries, ça.
Une future maman dit comment faire quand la sexualité est au point mort depuis que le ventre s'arrondit et que ça bloque le futur papa. Donc là, elle n'a pas accouché, elle est enceinte, ça le bloque. Alors ça, j'ai l'impression que c'est assez fréquent. Quand même.
C'est hyper fréquent. Et là encore, se dire que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Le tout, c'est de maintenir le dialogue entre les deux partenaires. C'est le problème. Les problèmes se créent quand il n'y a plus de dialogue. Il faut se poser autour d'une table, dire voilà, moi je suis frustrée, toi t'es frustrée, pas frustrée. Ah ben non, ben moi j'ai mal. Chacun expose en fait son point de vue sur la sexualité. Autrefois, quand on a un couple sans enfant ou sans grossesse, on peut ne pas parler de sexualité. À partir du moment où on a un enfant dans le game, il faut absolument parler de la sexualité de façon très décomplexée. Sinon, les frustrations s'accumulent, on s'écarte, et après, bah, ça peut être déboulé à des catastrophes. Donc, vraiment, parler de la sexualité comme on parlerait d'aller acheter une baguette de pain.
Ouais. C'est là où l'un des deux peut aller voir ailleurs, tout ça, parce
exactement,
qu'on n'a pas parlé
mais sur des conneries, en fait, sur des malentendus, en fait. C'est des trucs débiles, souvent.
Là, un autre témoignage, donc je ne donne pas son prénom. Elle dit « Le père de ma fille me reprochait sans cesse de ne pas avoir repris d'activité sexuelle un mois après l'accouchement, en privé et en public devant nos amis. » Je l'ai très mal vécu, j'étais en fusion totale avec ma fille, l'allaitement, la fatigue, et puis merde, elle écrit, et puis merde, un bébé m'a quand même traversé le vagin, effectivement. Laissez-moi le temps de m'en remettre, et mon corps également. Aujourd'hui, on est séparés, et je pense que c'est mieux comme ça. Est-ce que ça aussi, des témoignages que toi tu as, c'est fréquent quand même que les hommes mettent une grosse pression après un mois?
Non. Franchement, c'est pas fréquent. Et honnêtement, un type qui aurait fait ça, je lui aurais parlé 5 minutes. Enfin, je veux dire... Bon, ça se fait pas de parler de ça en public et de mettre en porte-à-faux quelqu'un. Il faut savoir dire, exprimer les choses calmement, dire, ben, moi, je suis très frustrée, comment est-ce qu'on pourrait faire? Je rappelle que la sexualité ne se borne pas au rapport sexuel avec pénétration et qu'il y a quand même moyen de jouir sans avoir de pénétration au départ. Donc, on peut trouver des solutions.
Alors là aussi, soyons dans le concret, il faut pas commencer par la pénétration, en fait.
Non, ça dépend. Il y a des femmes, ça ne posera aucun problème, hein. Il faut voir, il faut s'adapter à chaque couple. Mais en tout cas, sachez qu'il y a quand même cette possibilité que les gens, à chaque fois, omettent. Donc, et puis, pas de pression non plus. Je veux dire, il y a plein de couples déjà qui se passent de sexualité. Et puis après, il y a des gens qui reprennent. Normalement, on reprend au bout de 3 mois à peu près. 60% au bout de 3 mois.
60% au bout de 3 mois.
Ouais, en fait, ça détend parce qu'il y en a qui se disent putain, on n'a pas repris, on s'aime plus. Ouais. Non, pas du tout.
Non.
Calmos.
Allez, tiens, restons dans le concret. Une jeune maman me dit qu'elle a accouché en avril 2020, donc il y a un an. et elle me dit « Parlez, s'il vous plaît, de la sécheresse. » Qu'est-ce que moi je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est?
Eh ben c'est le manque de lubrification vaginale. Donc effectivement les rapports sont douloureux.
Oui, mais après l'accouchement ça peut c'est fréquent.
Oui,
c'est un accouchement.
Ouais, c'est fréquent après un accouchement. Qu'il y ait un allaitement ou pas, c'est favorisé quand même par l'allaitement maternel. Donc il faut pas hésiter à mettre du lubrifiant. Et puis aussi il y a certaines pilules, attention, des pilules qu'on prescrit après l'accouchement qui favorisent la sécheresse vaginale. Donc vous nous en parlez, on fait un bilan éventuellement, un prélèvement vaginal, et puis on vous dit quel lubrifiant utiliser.
Ça peut revenir comme avant? La sécheresse peut
se... Mais bien sûr, tout ça c'est transitoire.
C'est transitoire.
Et c'est pas lié, parce que les femmes se disent « Ah bah ça y est, j'ai plus de désir pour lui, je l'aime plus. » Mais non! Non, non, pas du tout. On se calme. C'est pas lié au désir. On peut avoir beaucoup de désir et ne pas avoir de lubrification vaginale.
Et les hommes peuvent ne plus avoir d'érection après avoir
absolument.
Vu
non mais exactement, il peut y avoir des hommes qui ressortent en état de stress post-traumatique, ça existe pour les femmes mais ça existe pour les hommes aussi. Là pareil, pas de panique, on se met autour d'une table, on en parle. Et puis si jamais les problèmes ne se résolvent pas, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui s'appellent les sages-femmes et les sexologues, hein, qui sont même des fois des sages-femmes sexologues, qui sont à mon avis très bien placés pour faire ça, et vous les contactez, vous les consultez.
Justement, il y avait une dernière question là-dessus, c'est t'anticipes tout, hein. T'es forte quand même, hein. T'anticipes tout, tous mes messages. Pour moi, tout s'est arrêté net à ma troisième grossesse. Au grand dam de mon pauvre mari, que faire, à qui demander conseil, je ne sais pas trop.
Eh bien, moi je dirais sexologue, sage-femme sexologue, médecin sexologue. Je trouve que la double casquette est vachement intéressante. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir prescrire des bilans et éliminer des pathologies qui font qu'on a des problèmes sexuels. Parce que le problème d'aller voir directement un psy alors que c'est pas psy, c'est un peu dommage. Donc allez voir d'abord un praticien, sage-femme, médecin, et après éventuellement on vous enverra vers un psy si vraiment on a tout éliminé les problèmes.
C'est culpabilisant à ce
Mais moi en tout cas je dirais que 90% de mes patientes qui ont un problème sexuel après l'accouchement, ça se résout avec une consultation de sage-femme simple.
Est-ce que j'ai oublié une question concrète de base à te poser, un conseil que je suis sûr des femmes écoutent et se disent « Merde, ils n'ont pas parlé de ça, moi j'avais besoin de cette réponse. »
Non, je crois pas.
Je suis bon,
ouais.
Je pense à tout.
Ouais.
Merci Anna, allez, on retrouve Sophie Cadalen. Alors, Sophie Cadalen, de retour tous les deux pour continuer d'écouter les témoignages. Tiens, c'est vrai que j'ai reçu essentiellement des témoignages de femmes, mais vous verrez tout à l'heure, on entendra quand même un homme. Ça reste encore plus tabou pour les hommes que pour les femmes de parler de sexualité compliquée, vous diriez-vous ?
Oui, on a encore dans nos imaginaires l'idée que pour les hommes, ça va de soi, qu'ils ont une... D'ailleurs, je trouve que c'est pas du tout élogieux pour eux, les hommes. Pour vous, les hommes.
Ouais.
C'est qu'on les imagine, enfin, en tout cas, on se les représente comme des espèces de, oui, de bestiaux qui font ça, voilà, comme...
On
comme,
est des machines, en fait.
Des machines, comme on va faire des courses ou qu'on va aux toilettes.
Ouais.
Mais non, c'est très compliqué aussi pour eux. Eux aussi ont une libido fragile, quelquefois, et l'accouchement de leur femme qui a accouché de leur enfant peut aussi largement les perturber. Mais les femmes, effectivement, vous parliez de culpabilité tout à l'heure, elles prennent à leur charge la notion de désir, de « c'est à cause de moi » ou...
ce qui est terrible, c'est toutes celles qui disent « le pauvre, mon mari », etc.
Mais oui.
C'est compliqué. C'est compliqué d'être une femme, c'est compliqué de devenir parent. On va écouter un témoignage de Marie. Marie, elle dit « c'est pas simple d'avoir envie avec le corps qui change ». On l'écoute puis on commente.
Bonjour, Marie, 32 ans, je vis en Côte d'Ivoire, à Abidjan exactement. J'ai accouché le 16 janvier dernier d'un petit garçon par césarienne d'urgence. Donc déjà avec mon conjoint, nous n'avions pas eu beaucoup de relations sexuelles pendant la grossesse. Lui comme moi, on en a parlé, on n'était pas trop à l'aise à l'idée d'avoir un rapport avec le bébé, plus le ventre qui se voyait, c'était pas... Voilà, on n'était pas à l'aise. Ensuite, après l'accouchement, donc par césarienne, il est conseillé d'attendre minimum 6 semaines avant de reprendre une activité sexuelle. Donc, c'est ce qu'on a fait, le temps de se remettre aussi, moi, en forme après l'accouchement. Puis donc, au bout des 6 semaines, mon conjoint m'a demandé si je me sentais prête à reprendre une activité, ce à quoi j'ai répondu oui, car au final, même si je suis pas encore à l'aise avec mon nouveau corps, les kilos en plus... la cicatrice, la peau, flasque, enfin voilà, au final, j'en ai envie, donc j'ai dit à mon conjoint que j'étais prête. Bon, c'était il y a 2 semaines, et il s'est toujours rien passé parce que, à vrai dire, on est complètement épuisé, notre petit garçon a des coliques, donc les nuits sont très courtes, mon conjoint travaille beaucoup, donc le peu de temps qu'on a pour nous, on dort au final. Mais au final, on en rigole pas mal avec mon conjoint, puis on sait que les choses vont venir naturellement et qu'il ne faut pas se prendre la tête. Je pense que le plus important, c'est de ne pas pas se prendre la tête et les choses reviendront naturellement comme au début.
Sophie Cadalen, je voulais vous faire écouter ce témoignage de Marie, qui je trouve assez drôle, c'est-à-dire oui, on est prêt, mais on n'a pas envie. On a aussi le droit de pas avoir envie là, hein, parce
Bah oui.
Il y a cette norme de dire on peut reprendre au bout d'un mois, au bout de six semaines, mais ça, là aussi, ça met une pression de dingue. On n'a pas forcément envie, l'homme ou la femme.
Marie le dit bien, on n'a pas forcément l'énergie. Il faut être un petit peu disponible aussi pour être désirant et faut pas s'endormir comme une souche dès qu'on se pose sur le lit, ce qui n'est pas rare après un accouchement quand on a un petit enfant, le père aussi d'ailleurs. Mais surtout, ce qui est intéressant aussi dans le témoignage de Marie. C'est que quand on n'a pas une sexualité très dynamique, voilà, je vais le dire comme ça, pendant la grossesse, elle va pas revenir d'un coup d'un seul après l'accouchement. C'est aussi de ça dont il s'agit de tenir compte. Je dirais même qu'il y a des couples qui n'ont pas, en tout cas, un terrain sexuel si intense par rapport à d'autres, et pourquoi pas, on se retrouve aussi avec des affinités différentes. Et la sexualité, quoi qu'on en croit, quoi qu'on en dise, n'est pas forcément essentielle pour tout le monde. Mais ceux-là aussi vont culpabiliser. Ils n'étaient pas très sexués avant, ils n'étaient peut-être plus du tout sexués pendant la conception, pendant la grossesse, et tout d'un coup, il faudrait redevenir sexuel dès qu'on a accouché.
Alors qu'ils ne l'ont jamais été. Mais
alors qu'ils l'ont peut-être, ouais, au fond, jamais été, peut-être, ou en tout cas, pas tellement.
Et puis la tendresse prend d'autres formes que la, ouais, sexualité.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce témoignage-là invite à ça. On sent que ce à quoi ils sont prêts aujourd'hui, c'est de se câliner. Et on sait bien qu'il y a des câlins qui dégénèrent en d'autres câlins, autrement plus chaleureux.
Alors, autre témoignage d'une autre Marie. Alors, j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Parce qu'elle a aussi beaucoup culpabilisé, mais non pas de ne pas avoir envie, mais au contraire, de très vite avoir envie de son mari.
Oui.
Et ça l'a fait culpabiliser. Oui. En gros, elle se disait, mais attends, t'es une nouvelle maman, tu peux pas penser comme ça. On écoute Marie et on commente juste après.
Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 30 ans. Je suis maman d'une petite fille de 3 ans et demi et je suis enceinte de mon deuxième enfant depuis un peu moins de 3 mois. Je voulais témoigner aujourd'hui sur le sujet du sexe après l'accouchement parce que je pense que c'est un sujet un petit peu tabou et je fais partie, je pense, des personnes qui ne rentrent pas dans les cases ordinaires de ce qu'on attend d'une jeune maman après son accouchement, qui s'est très bien déroulée après une grossesse tout aussi belle et magique selon moi, qui m'a permis de pratiquer le sport à très haut niveau jusqu'à 2 jours avant l'accouchement, sans complications, sans autres nausées ou autres désagréments de la grossesse. Accouchement qui a été très rapide, pareil, selon moi, parfait. Dès la maternité, j'ai commencé à ressentir du désir pour mon mari, mais je l'ai un petit peu mis de côté, parce que j'aimais, un peu maladroitement et bêtement, je pense, que c'était pas tout à fait normal d'avoir à nouveau envie et à nouveau une libido qui se manifestait de cette manière dès la maternité, alors que ma fille venait tout juste de naître. J'ai donc attendu quelques temps, et lorsque nous sommes rentrés à la maison, je me rappelle que la toute première soirée qu'on a passée à la maison, j'ai ressenti un très fort désir pour mon mari, j'avais envie de lui sauter dessus, pour parler un peu crûment, et je lui en ai fait part. Et ça a été assez rigolo, parce qu'il était à la fois très flatté, très touché, assez surpris. Je pense qu'il ne se faisait pas cette idée-là d'une jeune maman et de la reprise d'une vie sexuelle après un accouchement. Et finalement, c'est lui qui m'a freinée en me disant « Écoute, j'en ai très envie également. Par contre, j'ai un peu peur de tout casser là-dedans. Il s'est passé des trucs dans ton corps et je préfère qu'on prenne un peu plus de temps. » Je sais pas s'il a eu raison ou non, mais en plus, moi, je lui avais présenté sur le ton de l'humour parce que j'avais un peu peur de sa réaction. Justement parce que dans l'image collective, une jeune maman, elle doit se consacrer à son enfant et ça faisait un petit peu étrange, en fait, d'avoir d'ores et déjà envie de mon mari de cette manière et d'avoir ressentir un si fort désir, en fait. Ce qui fait qu'on a attendu quelques temps, je pense une semaine, et tout s'est très bien passé, malgré le fait que les sensations étaient effectivement totalement différentes et étranges par rapport à ce dont j'avais l'habitude. Ce qui m'a un peu inquiétée, je dois avouer, j'ai eu peur que ça ne revienne jamais comme avant. Et finalement, c'est revenu. Ça a pris un peu de temps, mais c'est revenu comme avant. Et par contre, lui, le désir n'est jamais parti. Et je voulais justement dire que c'est normal et de ne pas avoir envie de se laisser le temps de retrouver une vie sexuelle, une libido, et que c'est normal. Mais je pense aussi que c'est normal, parfois, d'avoir envie tout de suite. Je pense que mon envie était liée aussi au fait que J'avais envie de me retrouver en tant que femme et pas uniquement en tant que maman. Ça, c'était quelque chose, je pense, qui me tenait à cœur. Et j'avais envie de reconstruire la relation de notre couple et la consolider, en dehors du fait qu'on était simplement devenus des parents. Et je pense que, voilà, il n'y a pas de normalité précise là-dessus. Et j'ai été moi-même un peu... Après coup, je suis un peu honteuse d'avoir réagi de cette manière-là et d'avoir presque culpabilisé, en fait, d'avoir envie de reprendre une vie sexuelle active aussi rapidement.
Alors, Sophie Cadalen, il est intéressant ce témoignage aussi de Marie.
Oui. Alors, il ne faudrait pas qu'en plus, elle ait honte de culpabiliser.
Ouais,
alors,
ouais, c'est bien très compliqué.
Pour rajouter non plus. Non, non, il est très intéressant parce qu'effectivement, on démarrait, vous démarriez l'émission en disant on n'en parle pas assez, mais on en parle, d'ailleurs c'est un peu, je crois, ce que je vous répondais, on en parle trop sous l'angle un peu pathologique, un peu souffreteux. Mais il y a aussi des hommes, des femmes, et des femmes peut-être en premier chef, pour qui ça se passe très bien. Et au contraire, l'accouchement, la délivrance, là le terme prend tout son sens, c'est revenir le plus vite possible dans sa vie de femme, dans sa liberté de corps de femme, et d'en profiter et d'en jouir. Mais effectivement, ça vient convoquer tous les lieux communs, tous les fausses croyances qu'on a de effectivement du rôle qui est le nôtre maintenant. On est mère, donc peut-être un peu plus vertueuse, donc un peu moins obsédée par la chose. D'ailleurs, c'est les messages contradictoires qu'ont les femmes. Elles doivent y penser beaucoup, et puis peut-être pas y penser tant que ça. Et là, elle raconte effectivement la vie qui reprend d'abord et surtout. Et elle raconte aussi, et ça c'est très intéressant, qu'elle a dû rassurer son compagnon. Et là encore une fois,
ouais.
Mais oui, on ne dit pas assez aussi comme les hommes peuvent être extrêmement effrayés par cette femme à aborder de nouveau, ce corps à pénétrer, alors qu'il s'y est passé peut-être tellement de choses.
Ouais, et puis peut-être que lui s'attendait à ce qu'elle mette 3 mois avant d'avoir à nouveau envie, et puis bah, il a été surpris. En parlant des hommes, on va en entendre un d'homme. Enfin, messieurs, n'hésitez pas à témoigner dans ce podcast. Témoignage de Vincent, qu'on écoute, on en parle juste après.
Bonjour Benjamin, bonjour la maison des maternelles. Je m'appelle Vincent, j'ai 31 ans et je suis papa depuis 4 mois de mon fils Gabriel. Donc nous avons mis à peu près un mois à reprendre une activité sexuelle, à recommencer à avoir une vie sexuelle plutôt. Ma conjointe a accouché par voie basse sans péridurale. Elle n'a pas eu d'épisio, mais elle a eu quand même quelques déchirements. Donc il y avait un petit peu de boulot à refaire en bas, on va dire. Et on attendait un peu l'accord de la sage-femme pour recommencer une activité sexuelle. Donc on y allait tout petit à petit. On a commencé doucement avec du lubrifiant. Et c'est elle qui a donné le feu vert pour recommencer une pénétration normale, on va dire. Elle avait plus peur que mal, en fait. Dès le début, et puis en pratiquant, ça a débloqué certaines choses. Et pour ma part, en fait, l'accouchement a été assez long, même s'il a été assez classique. Il était quand même assez long pour moi, c'était notre premier enfant. Et en fait, j'ai regardé tout ce qui se passait en bas. Je pensais que ça allait me complètement bloquer, puis au final, j'ai retrouvé un désir pour elle quasi spontanément. En tout cas, voilà, dans les premières semaines qui ont suivi. Et moi aussi, j'avais un peu peur de tout casser, en fait. Alors, je sais, peut-être un peu prétentieux de dire ça. Mais en tout cas, pour avoir vu un peu ce qui s'est passé en bas pendant l'accouchement, de la manière dont elle a été recousue, etc., j'avais vraiment peur de lui faire mal. Elle aussi, donc, un petit peu. Et puis, au final, tout se passe bien. Elle me dit qu'elle a des sensations supérieures. Alors, elle est encore en train de retravailler son périnée 4 mois après. Mais elle a des sensations qu'elle n'avait pas avant l'accouchement. Donc, c'est tout bénef. Je pense que le plus compliqué pour elle, ça a été de reprendre possession de son corps, autant psychologiquement que physiquement, bien sûr. Il ne faut pas omettre non plus le facteur de la fatigue. Notre cher Gabriel ne fait toujours pas ses nuits, bien malheureusement, et ça influe aussi dans notre vie de couple, dans notre intimité. Mais je trouve qu'on s'en sort vraiment bien, surtout elle d'ailleurs, que j'embrasse au passage, qui a été formidable du début. Jusqu'à maintenant.
Merci beaucoup à Vincent pour ce témoignage. Et puis en plus, il est concret, Vincent. Il parle de lubrifiant. C'est très bien. Ça donne peut-être des bons conseils aux autres. Quand il dit que sa femme avait plus de peur que de mal, ça, c'est un classique, vous diriez? Ou c'est compliqué de dire ça aux femmes? Parce que beaucoup vont se dire que c'est que dans la tête que ça se joue.
Non, mais ça dit bien d'ailleurs ce qui rôde autour de la sexualité. C'est on ne sait pas très bien ce qui s'y passe, on ne sait pas très bien quelles sont nos fragilités. La première fois aussi peut être très effrayante, et on sait que quand on a un peu mal la première fois, c'est pas tant parce que ça fait mal une première fois, c'est que le corps est crispé, c'est qu'on n'est pas détendu, ça s'est pas assoupli, et que donc ça raconte, je trouve, comme la sexualité, et notamment après un accouchement, réclame de se réapprivoiser, d'y aller à notre rythme, avec nos envies. Et que c'est pas on ne peut pas maintenant, ou on pourra à tel moment, c'est on a envie d'y aller, ben on ira au rythme qu'on va inventer à ce moment-là. Et il va falloir faire tomber les résistances de l'autre, il va falloir, encore une fois, oui, s'aider à s'accompagner, s'aider à se donner envie. Et si on a envie, bah, effectivement, pour prendre ces termes, on s'aperçoit qu'on n'est pas si fragile que ça.
Non, les femmes ne sont pas si fragiles. Alors, Vincent, il a fait quelque chose, c'est qu'il a regardé en bas, comme il dit, il a regardé le bébé sortir, etc. Et on peut le comprendre, il avait peur que ça le bloque et que ça déforme un petit peu la vision de sa femme. Est-ce que c'est un conseil qu'on peut donner, ou chacun, enfin, vous allez, chacun fait comme il veut, mais est-ce que c'est bien, selon vous, pour la sexualité future, que de regarder tout ce qui se passe au moment de l'accouchement?
Si on a envie. Ce qui est terrible, ce sont ces hommes que l'on oblige, parce que leur compagne estime qu'il doit participer pleinement à cet accouchement. Quelquefois, certains n'ont pas du tout envie d'y être, ont très peur, et je crois que c'est à respecter. Certains, on va leur dire, non, tu regardes ce qui se passe, voire tu filmes, là aussi. On est un peu revenu de ça, je crois.
Ouais.
C'est un peu moins la mode des caméscopes.
Les grosses caméras avant.
Ou des téléphones dans les salles d'accouchement. Mais non, si on a vraiment envie, s'il y a cette curiosité, cet émoi, cette émotion, ça se passera bien. Par contre, si on y va contraint comme un devoir, on va le payer quelque part. Et c'est peut-être une façon aussi à l'homme, parce que les hommes aussi sont comme ça à leur insu, c'est de faire payer à l'autre ce à quoi elle l'a obligé, dire très bien, tu m'as voulu dans cette situation, et je te destitue peut-être aussi de ce rôle de femme que je désire, là tu me donnes plus envie.
J'adore cette interview avec vous, cet entretien, parce que je trouve que c'est hyper positif et ça montre quand même que globalement les choses, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bien après un accouchement, si ça se passait bien avant, et normalement...
Et c'est une phrase importante que vous venez de dire, si ça se passait bien avant, c'est qu'il ne faut pas oublier, parce que quelquefois on focalise sur une sexualité qui est un peu poussive, mais est-ce qu'elle ne l'était pas encore une fois déjà avant? Et ça fait une différence énorme entre un événement à dépasser... Et puis une sexualité qui n'a aucune raison d'être sublimée, transformée, parce qu'on est devenu parent entre-temps.
Et donc on va terminer avec un feu d'artifice et ce témoignage de Tiffany. Pourquoi feu d'artifice? Parce que je pense qu'elle va passer ce message à toutes les femmes qui seraient aujourd'hui enceintes, ou tous les hommes qui seront des futurs papas, pour dire, attendez, il n'y a aucune raison que si c'est le feu d'artifice avant, ça ne le redevienne pas juste après. On écoute Tiffany.
Bonjour, je m'appelle Tiffany, j'ai 25 ans. Et je suis la maman d'une petite fille qui va bientôt avoir 4 mois et qui s'appelle Margot. Pour commencer, je dois vous avouer que mon accouchement a été parfait. Pas de déchirure, pas d'épisio, très rapide, sans complications. C'est vrai que le fait d'avoir gardé toute mon intégrité au niveau intime a bien facilité les choses au retour de la maternité. Dès que l'on est rentré, on a pu retrouver un petit peu notre quotidien, une fois qu'on est rentré dans notre petit cocon familial, qu'on a pu prendre nos habitudes. Et dès que notre bébé a fait ses nuits, c'est-à-dire dès qu'elle a eu un peu moins de 15 jours, on a pu reprendre une activité normale. Ça s'est fait vraiment très naturellement. On s'est un petit peu réapprivoisé. On s'est découvert différemment, comme si la parentalité nous avait un petit peu plus donné confiance en nous, l'un vers l'autre. On a assumé beaucoup plus de choses et ça nous a permis d'avoir un petit peu au retour de la maternité comme une première fois qui a été assez intense. Et depuis ce jour-là, on s'est accordé beaucoup plus de liberté dans notre sexualité avec... des nouveautés, on ose beaucoup plus de choses, et comme on dit, c'est le feu. Voilà. Et l'avantage, c'est que, avec un bébé comme le nôtre qui s'endort très tôt, on a toute la soirée pour nous, donc il nous arrive de se faire un petit apéro, un petit repas, et d'avoir ce moment rien qu'à nous où on est un petit peu autre chose que des parents, on est avant tout un couple, ça nous permet d'avoir une intimité au quotidien qui est resté intact et qui s'est même amélioré, puisque on a un petit peu l'impression de s'aimer davantage, de se plaire davantage. Et on pouvait vraiment pas espérer quelque chose de mieux. Aujourd'hui, notre bébé a 4 mois. J'ai repris le travail, donc c'est vrai que la fatigue s'y rajoute un petit peu
On va dire que ça ralentit un petit peu notre cadence, mais on tient le bon bout et on compte pas lâcher. On est super heureux et on espère que d'autres mamans vivront ça et d'autres couples seront au moins aussi heureux que nous. À bientôt!
Et Sophie de Cadalène, ça peut être le feu 4 mois après un accouchement. Moi, je voulais terminer par ce témoignage de Tiffany qui fait plaisir, mais on peut le voir comme ça aussi. On va se réapprendre, on va réapprendre à découvrir l'autre, on se redécouvre soi-même, son corps. Si on se met un peu dans cet état d'esprit, ça peut être très positif.
Oui, alors ça aussi, ça va raconter comment déjà on aborde ce nouveau rôle de parent. Et si effectivement, c'est une aventure qui nous élargit encore, et là je parle pas que du physique, oui. qui rend les choses peut-être voilà encore plus grandes, encore plus larges, peut-être encore plus folles. C'est un peu fou d'être parent quand même. Hein.
Ouais.
On part de l'idée que ça va de soi, cette affaire-là, mais moi je trouve que c'était une aventure un peu dingue quand même. Mais si on le prend sur ce mode-là, waouh, on a fait un enfant, on vit ça ensemble, bah ça peut effectivement libérer aussi la sexualité. Mais si on se ratatine dans ce rôle de parent avec tous les devoirs, avec le vouloir bien faire, le vouloir bien être, et on sait que ça menace un peu tous les parents, et peut-être les mères en particulier, oui, c'est peut-être ça aussi que la sexualité compliquée va nous signaler. Mmh. Oh, on ne se détend pas assez, là.
Ouais. Et peut-être un mot pour ceux et celles qui nous écouteraient et qui ont des enfants de 3 ou 4 ans et la vie sexuelle n'est jamais repartie.
Oui.
Parce que dire que ça peut être festif et tout ça, c'est une chose, mais oui. Je me mets à leur place. Quel conseil on peut avoir peut-être concret? C'est-à-dire, il faut peut-être aller consulter, il faut aller consulter qui? Comment on peut faire si vraiment c'est au point mort?
Déjà, questionner cette sexualité, qu'est-ce qu'elle était avant? Questionner la souffrance que l'on en a ou pas, parce que peut-être qu'aussi on n'en a plus envie. Et pourquoi pas? Alors ça, pour le coup, c'est très tabou de dire ça.
Ah oui, alors arrêtons-nous-y là-dessus.
Oui, mais il y a des couples que ça n'intéresse pas tellement. Donc, le premier point, je crois, essentiel, c'est d'en discuter ensemble, où on en est. Et ce n'est pas ce qu'il faudrait que l'on fasse, mais où est-ce qu'on en est, nous, de notre désir, de notre vie ensemble?
Et si les deux disent, moi, je n'ai pas envie, ça tombe bien, moi non plus.
Mais tout va bien.
Ils ne s'inquiètent pas.
Et ils ne s'inquiètent pas du tout. C'est ça dont il est important. On l'a vu au premier témoignage. C'est tout ce qu'on spécule de ce que l'autre attend, imagine, et à qui on devrait fournir quelque chose, qui fait qu'on va être mal dans sa sexualité, ce qui ne va rien arranger. Non, c'est déjà comment on en est avec soi, où on en est avec l'autre. Bon, premier cas. Tout va bien, on se passe très bien de ça. Bon, mais si effectivement il y a souffrance, ça va réclamer d'être questionné. Est-ce que c'est souffrance de vie? Est-ce qu'on est vraiment si bien que ça dans cette vie qu'on a construite? Comme je disais encore une fois tout à l'heure, la sexualité, ça va être le reflet de où on en est psychiquement aussi. Où on en est dans notre vie à soi, mais aussi avec l'autre. Est-ce que ça vient pas agiter le fait qu'on est à un moment d'incompréhension, de reproche peut-être aussi à l'autre, ce qui est pas rare quand on est parent. Donc ça va peut-être réclamer, oui, effectivement, peut-être de se poser avec un psy, peut-être aller soi, toute seule, aller voir un psy. Ça se règle pas forcément avec l'autre. On le vit pas de la même manière. Et quelquefois, dissocier les... En tout cas, les questionnements peuvent être aussi importants pour se retrouver ensemble.
Avant d'y aller en couple, il faut y aller soi-même. Vous avez vu la série En Thérapie, non, sur Arte?
Oui, je l'ai vu, oui.
Ce couple vous a fait rire, ce couple qui consulte et qui s'entretue, ou on est quand même là dans le cliché, ça se passe pas comme ça, les thérapies?
Non. J'ai des patients qui ont complexé beaucoup en voyant la série, qui m'ont dit « Ah, mais je parle pas aussi bien que... » Ce à quoi j'ai répondu, mais je ne parle pas aussi bien que...
Personne ne parle aussi bien que dans cette série En Thérapie.
Non, elle était très éclairante sur plein de choses. Maintenant, ça se passe pas de manière aussi lisible. aussi efficace, si vite non plus, et heureusement pas aussi agressive non plus.
Ouais, c'est vrai, effectivement. Sophie Cadalène, merci infiniment, c'était un plaisir. Je suis sûr que vous allez aider plein de gens. Et puis surtout, c'est positif ce qui ressort de ça, c'est-à-dire, vous êtes enceinte aujourd'hui, vous avez peur que ça reparte pas, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais laissez-vous du temps.
Oui,
j'ai bien résumé.
Du temps.
Pas de pression.
Oui, pas de pression.
Pas de pression. Et puis, si vous faites pas l'amour dans les 6 semaines, c'est pas grave.
Et puis, on se câline. Voilà, on se câline. C'est de ça dont on a, je crois, surtout besoin après l'accouchement. C'est ce geste de tendresse. Il n'y a pas que le bébé qu'il faut caresser. C'est la maman et le papa aussi.
Et le papa aussi. Et il n'y a pas que la pénétration. Je sais pas si on l'a dit, mais c'est peut-être l'occasion de le dire.
Et oui.
Bien sûr.
Et de jouer autrement, oui.
Inventer son couple, c'est chez Erol. Vivre ses désirs vite, c'est chez Philippe Ray. Merci, Sophie Cadalène. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. Déjà, merci beaucoup. Merci à toutes celles et à celui qui m'ont livré tous ces témoignages. Merci aussi à ceux qui m'ont envoyé des témoignages que j'ai pas pu passer parce que j'en ai reçu beaucoup. C'est ce que je vous disais en tout début de podcast. Et puis c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ce sujet. Donc vous savez quoi, moi si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est si autour de vous il y a des jeunes parents, des futurs parents, etc. N'hésitez pas à en parler. autour d'un petit apéro, autour d'un verre ou quoi. Évidemment, pas besoin d'être cru pour en parler, mais en tout cas, dire que bah, bien sûr que ça change et que c'est important d'y réfléchir avant, d'en parler. Je vous redonne un conseil que vous avez bien compris, vu que vous écoutez ce podcast depuis le début, je pense. Merci beaucoup à Jérôme Caza de 2P2L, à Aurélie Taguet et Olivier Maqueron à France Télévisions. Merci évidemment à Alexandre Ferreira à la réalisation qui a réalisé cet épisode. Si ça vous a plu, là c'est un peu le moment obligatoire des podcasts, mais c'est hyper important. S'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des étoiles, par exemple sur Apple Podcasts ou sur les plateformes. Bon, je vous explique, pour nous c'est hyper important parce que plus on a de commentaires, plus on a d'étoiles, mieux on est référencé. Et plus on est référencé, bah plus c'est mis en avant, et donc plus il y a des gens qui vont découvrir ce podcast. Et l'idée quand on fait un podcast, en tout cas moi c'est la mienne, c'est que plus il est écouté, bah mieux c'est. Voilà, tout simplement pour que ça vienne en aide au plus grand nombre. Donc si vous pouvez prendre deux petites minutes de votre temps, s'il vous plaît, même pas deux minutes, 20 secondes, pour aller mettre des commentaires, des étoiles, des trucs, c'est hyper sympa, ça nous aide beaucoup. Voilà, c'était un peu relou, mais j'ai essayé de le faire le plus court possible. J'ai également besoin de vous pour autre chose, pour le prochain thème. Hein, on fait quoi ? J'en ai plein des idées, mais j'aime surtout que ça vienne de vous. Donc n'hésitez pas à me dire, ouais, voilà, moi, il y a tel sujet, tel thème, je trouve qu'on n'en parle pas assez, je trouve que c'est tabou, je trouve que, je sais pas, moi, on pourrait en faire quelque chose dans ce podcast. N'hésitez pas à me dire, et puis moi, je vois si c'est possible. Donc vous venez sur Instagram, message privé, vous m'envoyez vos suggestions, on en discute, et puis on avise. Allez, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, donc je vous laisse. Ciao tout le monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Non, un peu de dynamisme.